en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Baptiste Antoine.
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Il y a 35 ans, en 1989, sortait sur les écrans un film qui allait marquer toute une génération et sans doute au-delà. L'histoire d'un enseignant pas comme les autres qui demandait aux élèves qui le souhaitaient de lui répondre en commençant leur phrase par ces mots « Ô capitaine, mon capitaine » d'après le poème hommage de Walt Whitman à Abraham Lincoln. Si à ces mots j'en rajoute deux autres, deux mots latins, « carpe diem », nul doute que vous aurez reconnu « Le cercle des poètes disparus », le film du cinéaste australien Peter Weir, Oscar du meilleur scénario original et César du meilleur film étranger. Olivier Soliveres le met aujourd'hui en scène au théâtre avec un casting impeccable. Ethan Oliel joue le rôle de l'étudiant Neil Perry, tandis que Stephen Fry s'endosse le rôle du professeur John Keating, incarné à l'écran par l'inoubliable Robin Williams. On n'en est pas encore aux 7 millions d'entrées du film, mais la pièce fait déjà un carton à Paris, on vend les strapontins et à la fin la salle est debout tout simplement, ce qui n'est pas si fréquent. La pièce est à l'affiche du Théâtre Antoine jusqu'au 26 mai et vous m'en direz des nouvelles. Oh, capitaine, mon capitaine, bonjour Stéphane Fraisse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix tout d'un coup, sentencieuse, parce que vous m'avez donné envie d'être déjà un peu dans le spectacle.
Ben voilà, on est complètement dans le spectacle.
Vous savez, on est mercredi et nous, on reprend aujourd'hui. Donc déjà, je me fais chauffer un peu.
Ça vous permet de chauffer un petit peu, effectivement. Oui. Bonjour à vous, Olivier Soliveres.
Bonjour.
Et bonjour à vous, Ethan Oliel.
Bonjour.
Merci à tous les trois d'être avec nous. Alors, ne pas avoir peur de réaliser son rêve, c'est un peu l'un des messages de la pièce, Olivier Soliveres. Finalement, c'est un petit peu ce qui vous est arrivé.
Oui, oui, oui.
Ça faisait 11 ans, je crois.
Ça faisait 11 ans, oui. Je rêvais de monter ce spectacle il y a 11 ans. J'ai séduit mon épouse avec des idées de mise en scène il y a 11 ans. Voilà.
D'accord, mais qu'est-ce qui a rendu votre rêve possible et pourquoi vous avez attendu aussi longtemps?
Alors, qu'est-ce qui a rendu possible? Je pense que c'est l'acharnement de ne pas lâcher, d'y croire. Ouais. Je croyais en ce projet et je voulais vraiment le monter. Et ce qui a rendu possible et pourquoi ça a été si long? Parce que c'est long d'acheter les droits d'un projet, les Américains ne sont pas faciles à convaincre, et puis trouver les bons acteurs, c'est compliqué, voilà, tout ça a fait un peu de temps.
Et puis peut-être, pardon Olivier, mais aussi, dépasser l'inquiétude de faire oublier un mythe, puisque le film est rentré au rayon des films cultes, et qu'il y a beaucoup de gens qui probablement se disaient ils sont gonflés, mais ils vont se taper le mur.
Bah oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens, même ceux qui franchissent les portes de la salle aujourd'hui, qui vont se dire « Oulala, je vais être déçu forcément ».
On est là et on ne va pas les rater, et ils sortent en larmes. Mais en fait, ce qu'ils ont oublié, ils ont oublié deux choses. D'abord, c'est que c'est du théâtre et que ce n'est pas du cinéma.
Oui.
Et la deuxième, c'est que on vient, même si on venait reprendre au plus près le film, en fait, ce qu'on vit sur scène, c'est un discours parfaitement moderne sur le rapport entre un professeur et ses élèves et au-delà de ça, sur comment trouver sa place en société, comment être un être libre ou le plus libéré possible de notre héritage, de ce qui nous a construit.
Alors avant de parler de la pièce, on va se replonger dans un instant dans le film, dans l'ambiance du film. On va écouter la bande-annonce française de l'époque. Ça devrait rappeler quelques souvenirs à beaucoup.
Messieurs, quels sont les quatre piliers?
Tradition, honneur, discipline, excellence.
Les bannières.
L'Académie Walton pour garçons. Une serre pour les futurs leaders de l'Amérique. Une institution vouée à l'effort, à la vertu et aux valeurs établies. Une école dont les critères de rigueur sont maintenus par tous les professeurs, sauf un.
Allons, monsieur Overstreet, Tristan Nabo.
Monsieur Anderson, êtes-vous un homme ou une amibe?
Le langage est développé dans le seul but de communiquer?
Non. Séduire les femmes.
Monsieur Keating.
Touchstone Pictures présente Robin Williams dans le rôle de John Keating, professeur.
Or ça, vicomtesse, céderiez-vous à ma flamme?
Philosophe.
J'adore Byron, je lui mettrais bien 18, mais c'est pas très dansant.
Orateur.
Oh, Titus, Bérénice, Tatan.
Et fondateur du cercle des poètes disparus.
Des mecs un petit peu dingues qui venaient lire de la poésie.
Non! Bing! Merci d'avoir joué avec nous.
C'est quoi ces poètes disparus?
Les poètes disparus consacraient leur réunion à sucer la moelle secrète de la vie. Nos âmes s'élevaient, les femmes s'évanouissaient, les dieux naissaient de nos mains. De belles soirées pour l'esprit, hein?
Je déclare reconstituer le cercle des poètes disparus. Combattre, chercher, trouver,
Faire bien plus, être bien plus.
Osez vous frayer de nouvelles routes. Allez à la recherche des terres vierges.
Il me vient des rumeurs, John, sur les méthodes peu orthodoxes que vous appliquez dans votre classe.
Parlez, ça marchera.
John Keating, il commença par enseigner la littérature, et puis il transforma la vie de ses élèves.
Je joue la pièce!
Déchirez toute l'introduction.
Qui t'a mis ça en tête? C'est ton nouveau prof, ce monsieur Keating?
Est-ce qu'on fait semblant ici, ou est-ce qu'on défend le cercle?
Tradition, honneur, discipline!
C'est toute la base. Déchirez-moi tout ça, déchirez!
Quel est ce cercle des poètes disparus? Je veux des noms.
C'est une bataille, une guerre, dont les victimes pourraient être vos cœurs et vos âmes. Pour la première fois de ma vie tout entière, je sais ce que je veux faire.
La médecine, le droit, la banque, l'industrie sont de nobles objectifs.
Mais la poésie, l'amour, l'aventure, c'est pour ça qu'on vit au fond.
C'est si magnifique.
Asseyez-vous, monsieur Anderson.
Carpe diem.
Asseyez-vous. Qu'est-ce que c'est que ce raffut?
Cueillez les fleurs de la vie.
Voilà, cueillez les fleurs de la vie en latin, carpe diem, petite Madeleine de Proust, hein, pour vous, pas que pour vous sans doute. D'ailleurs, Olivier Soliveres, vous faites partie de ceux et celles qu'on pourrait appeler la génération Keating?
Je sais pas. Oui, bah, en tout cas, moi, j'ai grandi avec ce film.
Vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu le film?
Oui, très très bien.
Comment vous l'avez vécu?
Moi, ça m'a marqué parce que je vais pas dire que j'ai vécu ce que Neil a vécu, mais j'ai des parents qui sont médecins, enfin profession libérale, et leur dire que je voulais faire du théâtre, pour eux, c'était pas. Ils m'ont jamais dit non. Hein, je vais pas. Ouais. Mais oui, pour eux, c'était pas un métier. Enfin, c'était pas une vocation au départ.
Donc, vous vous êtes reconnu?
Je me suis complètement reconnu dans
le personnage de Neil Perry.
Oui, ça m'a marqué.
Alors, Neil Perry dans la pièce, c'est vous, Ethan Huliel. Alors, vous portez le même prénom qu'Ethan Hawke,
oui.
L'acteur qui joue non pas Neil Perry dans le film, mais son camarade de chambrée,
le
personnage de Todd Anderson. C'est un hasard?
Non,
ou...
pas du
non,
tout.
C'est... Ah,
pas
vous étiez prédestiné alors?
On peut dire ça, prédestiné. Dire, je
alors
sais,
expliquez-nous.
Je ne sais pas, mais ma mère avait beaucoup, beaucoup aimé le film, tout comme mon père d'ailleurs. Et c'est en hommage à Ethan Hawke que je m'appelle Ethan notamment. Oui.
Ah oui, d'accord. Et donc ils vous l'ont montré aussi très, très vite, j'imagine?
Ils m'ont montré très vite. Film, je l'ai vu à 13 ans, à une époque où en plus j'étais un enfant un petit peu distrait, incapable de lire. Plus de 2 pages d'affilée sans penser complètement à autre chose. Et c'est un film qui m'a vraiment bouleversé et qui est aujourd'hui une sorte de film de chevet que j'aime à revoir parce que j'ai la sensation d'y découvrir toujours quelque chose de nouveau.
Et ce qui est très drôle, c'est que fait il y a plus d'un, non, presque 2 ans ah non, maintenant, oui, les castings, c'est... quand je cherchais les jeunes comédiens, il y avait beaucoup, 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 parce que j'ai ouvert à tout Paris, à toute la France pour trouver les bons jeunes.
Ouais.
Donc j'ai reçu beaucoup de demandes, trop même. Et à la on faisait avec mon assistant les jours, allons-y. Et à un moment donné, il me dit, écoute, il me reste 5 créneaux là pour que tu vois des gens et il reste 50 CV. Regarde dans les 50 CV et prends-en 5. Et dans les 5 que j'ai pris, il y avait un jeune homme qui me dit, je voulais juste vous dire à la fin de mon CV que je m'appelle Ethan Huliel parce que ma maman était fan du Cercle des Poètes Disparus et elle m'a appelé Ethan en hommage à Ethan.
Donc ça, forcément, ça vous a...
Et ça m'a fait tilt. Je me dis, en disant, lui, c'est quand même marrant, c'est un signe, on pourrait le voir.
Ouais, alors voilà. En plus, vous avez, Ethan Huliel, une ressemblance physique avec...
Il paraît, oui.
Alors...
Robert
Sean Leonard qui a joué donc le rôle de Neil Perry dans le film. Moi, ça ne m'avait pas frappé quand je vous avais vu dans une autre pièce, L'écume des jours. Vous
tout
étiez venu d'ailleurs nous en parler dans ce studio, mais
c'est
là, sur la scène du Théâtre Antoine, c'est impressionnant.
C'est parce que je l'ai fait d'abord...
Couper les cheveux déjà, voilà.
Je l'ai fait passer chez le coiffeur.
Il y a une découverte capillaire, hein, vraiment.
Voilà. Il s'est retrouvé capillairement, ça, il me doit tout. Pour les cheveux, il me doit tout.
Bon, visiblement, le film a beaucoup compté pour tous les deux, et pour vous, Stéphane Fraisse, parce que j'ai lu à ma grande surprise que quand on vous a proposé le rôle, vous n'aviez pas vu le film, c'est vrai?
Ah mais oui, mais moi je
mais
ne
vous
dis
êtes
que
un extraterrestre.
Je ne dis que la vérité.
Oui, mais vous êtes un extraterrestre quand vous vous êtes passé
entre
les gouttes.
C'est dans le monde religieux que je triche toujours. Mais
bon, sinon, c'est pas le cas ici alors, donc dites-nous la vérité.
Mais la vérité, c'est que je ne l'avais pas vu. Et vous savez, et je ne vous donne pas la bibliothèque des films que je n'ai pas vu, enfin la filmothèque des films que je n'ai pas vu, parce que je pense que vous me demanderiez de quitter ce studio.
Ah, vous n'êtes pas cinéphile.
Je suis extrêmement cinéphile, mais moi j'aimais beaucoup voir les films que personne n'allait voir, du Kyrgyzstan, d'Azerbaïdjan, de Géorgie, libanais, enfin voilà. Et donc j'avais une tendresse pour les films d'auteur, voilà. Et puis je craignais un peu les blockbusters américains. Celui-là était un film avec un thème et un sujet, mais en même temps c'était un gros film américain. Et puis surtout, et je ne sais pas si mes camarades dans le studio le partagent, c'est que quand vous ratez la sortie d'un film, c'est très difficile de le revoir avec le même regard que ceux qui l'ont vu d'abord, parce qu'il est précédé, le film, de toute une histoire et d'une réputation. Et puis là, pour le coup, vous l'avez dit, c'est un carton.
Ouais.
Et je me disais, mais il y aura une raison à un moment. Et je me le suis dit, c'est un jour, je me suis dit, comme il y a, je sais pas, non, je vous dis pas ce que j'ai pas vu, parce que vous allez me dire, mais non. Mais il y en a, je sais que je reverrai dans une... Et puis j'ai des enfants, il y a un moment où on se dit, tiens, c'est le moment. Et ben, ce moment-là est venu quand on m'a proposé de lire le texte, je l'ai lu.
Vous avez lu le texte?
J'ai lu le texte d'abord.
Avant de voir le film.
Et j'ai trouvé ça d'ailleurs un poil vieilli, comme l'est, même si le film reste un film majeur, mais le film a vieilli. Il faut le dire les choses comme elles sont. Il a vieilli parce que le cinéma de cette époque a vieilli, parce qu'on a fait un retravail avec Olivier Gérald Sibleras sur l'adaptation, et on lui a amené dans la dernière version un vrai coup de dépoussiérage et de modernité. Et tout ça, c'est pour ça que quand on écoutait la bande-annonce de trucs, je reconnais certaines choses, mais il faut bien dire que la philosophie de Keating a beaucoup évolué, la manière de parler des jeunes a aussi évolué, et moi j'en suis content parce que il y a beaucoup de jeunes qui viennent voir notre spectacle et je tenais beaucoup à ce qu'il y ait une je dirais pas une identification, mais qu'ils se reconnaissent dans cette inquiétude de cette génération à souffrir, comme venait de le dire Olivier, à souffrir, à faire entendre à leurs parents ou à leurs proches leur vrai profond désir. C'est pas facile de dire, quand on a entre 15 et 20 ans, à ses parents, voilà, j'ai envie de faire autre chose que ce que vous avez pensé que je devais faire.
Alors, on a entendu la bande-annonce du film, enfin, maintenant, entendre la bande-annonce de la pièce. Allons-y.
Les choses ne changent pas. Changez votre façon de les voir. Vous croyez savoir quelque chose, vous pensiez voir loin, au-delà même de l'horizon. Mais méfiez-vous des montagnes. Elles se déplacent. Quand vous lisez, ne vous arrêtez pas uniquement sur ce que pense l'auteur. Demandez-vous ce que vous, vous en pensez. Soyez vous-même. Tous les autres sont pris. Plus vous attendrez, moins vous aurez de chances d'y parvenir. Ne vous résignez pas. Évadez-vous, sortez de vous-même, quittez la route. La vie n'est pas une promenade. Soyez audacieux. Heureux sont les hommes libres, mais libres sont les hommes courageux. Carpe diem. Carpe diem, carpe diem. Saisissez les opportunités. Faites de votre vie un chef-d'œuvre.
Ah, et c'est beau, Stéphane Fraisse, qui forme le texte de la bande-annonce sur quelques-unes des répliques de votre personnage, hein, cet incroyable professeur de littérature nommé John Keating. Vous en avez eu beaucoup des enseignants comme celui-là?
D'abord, on rêve tous d'avoir un Keating, déjà. Moi, je l'ai eu. Je ne sais pas s'il m'a donné goût aux études. Parce que je veux dire que l'année où je l'ai eu, il était professeur de physique-chimie et j'étais absolument nul en physique-chimie. Je peux pas dire que j'étais brillant dans les autres matières, mais alors là particulièrement, je n'aurais franchement le fond de classe et les notes les plus basses. Et ce type est rentré dans la classe, il s'est pris les pieds dans l'estrade, il s'est étalé, il a volé, il s'est remonté, il a tendu ses bras, il a fait acétylène C2H2. D'accord. Et là, je me suis dit, gars, et puis il a fait un spectacle, et ce spectacle s'est répété cours après cours, et j'ai eu 18 au bac grâce à ça. Et surtout, j'ai pris goût à la physique-chimie, mais j'ai pris goût au théâtre. Ouais. Ça, c'est certitude qu'il a planté une graine à ce moment-là.
Saisir les opportunités quand elles se présentent, c'est aussi très important dans une carrière d'acteur, j'imagine. C'est presque la base,
oui,
non?
Oui, alors saisir les opportunités, puisqu'on parle de ça, j'ai presque failli dire non au projet. Saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent, c'est-à-dire un Keating, c'est pas automatiquement un prof, c'est quelqu'un qui est sur votre chemin, qui fait comme ça, qui fait une espèce de petit clignotant à côté de vous et qui vous dit « mais regarde, arrête-toi, je suis là pour toi ». Et là, pour le coup, c'est un personnage pour nous. C'est un phare. C'est un phare qui vous dit « je suis pas par hasard sur ton chemin ». Et d'ailleurs, ce que je dis là aux auditeurs qui nous entendent, c'est pas simplement vrai pour les acteurs. On a tous un phare, des clignotants qu'il faut à un moment voir. Et nous, au théâtre, j'ai compris ça, c'est la lecture à haute voix sur scène. Quand on a un doute sur un texte, c'est très bon de l'entendre avec les gens avec qui vous allez jouer. C'est là que j'ai rencontré Olivier Soliveres et que notre amitié est née et notre complicité de travail. C'est là où j'ai découvert ces formidables jeunes acteurs, à commencer par Ethan. C'est eux qui m'ont donné envie, puisque je ne connaissais pas Olivier encore. Donc c'est un moment, fondateur de l'aventure. Sinon, moi, je ne serais probablement pas parti.
Comment est-ce que vous avez travaillé avec Gérald Sibleras, l'adaptation du texte? Il fallait le moderniser, disait Stéphane Fraisse à l'instant.
On a fait 12 versions.
Ah oui.
Oui, ça a été long. Parce que le projet prenait du temps, donc on a eu le temps de faire beaucoup de versions.
Et donc vous êtes parti du texte, du scénario de Tom Schulman?
Non, on est parti. En fait, les Américains, quand je leur ai demandé les droits du scénario, ils nous ont dit « no way ». Ils ne voulaient pas donner le scénario, il n'y avait pas de scénario. Et puis 2 ans après, ils nous ont rappelé en nous disant « au fait, Tom Schulman, on a fait une pièce de théâtre. Est-ce que ça vous intéresse ?» Donc là, on a dit « oui, bien sûr ». Donc la grosse bataille pour réussir à avoir les droits. Et puis donc, on est parti. Moi, je parle pas assez bien anglais pour pouvoir l'adapter au départ tout seul. Et donc, j'ai pris Gérald Sibleras avec moi pour qu'il l'adapte. Et il a fait un premier jet. Voilà. Et là-dessus, après, bah, j'ai mis ma patte. On en a fait plusieurs. Moi, je voulais déjà que ça soit vraiment... Ça reste d'époque, qu'on parle vraiment des années 50. Au début, c'était très... Il y avait beaucoup de tutoiements, etc. Non, je préfère qu'on reste dans le vouvoiement, qu'on monte cette époque-là, mais qu'après, quand après Stéphane est arrivé, on a rajouté un petit peu de sens un peu plus moderne, je dirais.
Oui, mais je dirais même, pardon, mais j'ai rajouté une philosophie à Keating qui n'y est pas complètement dans le film. C'est-à-dire qu'il y a chez Keating, effectivement, re-questionnez-vous. Mais le re-questionner vos certitudes et vos doutes, et toute cette philosophie-là, je l'ai amené dans la dernière version, avec l'accord évidemment d'Olivier et complicité d'Olivier, mais je l'ai amené parce que je trouvais qu'elle était moderne aujourd'hui.
Ouais.
Et que si vous écoutez le texte, c'est pour ça que j'écoutais attentivement la bande-annonce du film, et que je trouve que ça a vieilli, c'est que le film, il joue avec eux, mais il n'amène pas véritablement un fond philosophique comme nous on essaie de l'amener, qui tient à la fois au théâtre, et aussi à des idées fortes, à des idées phares qui peuvent donner à des jeunes l'envie, voilà. De...
Et puis on avait ce débat avec Stéphane, c'était qu'est-ce que Carpe Diem ? Est-ce que Carpe Diem, tu te souviens ? Est-ce que vraiment Carpe Diem, c'est qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça veut dire faire n'importe quoi ?
Voilà. Ou alors, ça, on l'a amené, que, voilà. Tout ça, on l'a amené, on l'a construit. Ouais. Et vous savez,
en parlant beaucoup,
et vous savez, il ne faut pas grand-chose. Vous savez, dans une maison, quand on l'a construit, il ne faut pas grand-chose pour que deux maisons ne se ressemblent pas alors qu'elles sont construites sur les mêmes fondations.
Alors, on a un jeune avec nous, et pas n'importe lequel, c'est vous, Ethanolier. Alors, c'est vrai qu'on se dit, quand on rentre dans la salle, il y a quand même plusieurs difficultés. Parce que, bon, un, on passe du cinéma au théâtre. Deux, on est effectivement dans les années 50, le film date des années 80, et on est aujourd'hui en 2024. Alors, justement, est-ce que les jeunes de cette génération-là, est-ce qu'ils s'y retrouvent ? Est-ce que vous, vous y êtes retrouvés en tant qu'ancien spectateur du film et en tant que jeune de cette génération qu'il faut bien, effectivement, draguer pour les emmener au théâtre aujourd'hui ? Parce que les jeunes, ils ne sont pas si nombreux dans les salles de théâtre à Paris.
Et c'est un des retours que je préfère avoir, c'est ceux qui ne sont jamais venus au théâtre et qui viennent voir ce spectacle-là, pour diverses raisons, et qui en sortent absolument ravis, et plus que ravis, parce que ma carrière n'en est qu'à ses débuts, moi je l'espère, mais j'ai déjà fait quelques spectacles, et au cours de ceux-ci, les spectateurs peuvent être heureux du moment qu'ils ont vécu, mais là on a la sensation vraiment qu'il y a quelque chose au-delà, que ça donne envie à des gens de se lancer dans quelque chose, qu'il y a vraiment quelque chose de palpable, des perspectives qui se dessinent, des envies qui naissent. C'est
et ça questionne, il a raison, heureux. Ça questionne cette génération et ça questionne aussi la génération de dessus, avec Olivier va en parler, mais on voit sortir des gens de toutes les générations se demandant, mais est-ce qu'il n'est pas quand même temps maintenant qu'on se repose des questions qu'on ne s'est jamais posées?
Et puis, il y a quelque chose d'assez génial, c'est que c'est des jeunes étudiants qui ne s'étaient jamais autorisés à penser qu'il existait un autre chemin que celui qu'on avait déjà tracé pour eux. Et donc, il y a un professeur qui arrive et qui leur dit la voie qu'on a tracée pour vous, elle existe, elle est louable même, mais il y en a d'autres. Et ce qui est assez magnifique, ce qui est assez beau, je trouve, c'est que tout ça se fait, ces champs qui se dessinent, ces horizons qui apparaissent sur un futur qu'ils n'estimaient pas viable, se fait par le vecteur de la philosophie, par le vecteur de la poésie, par le vecteur de la littérature, et la façon dont on s'approprie le langage, la façon dont les mots vont résonner en nous. Et je trouve que c'est d'une nécessité très actuelle de rappeler à quel point tout ça, donc, la littérature, les mots, le langage, la façon dont on les agence, la façon dont qu'ils ont d'évoquer des images en nous, comment cela peut participer à éveiller nos consciences. Je trouve que c'est une nécessité très actuelle.
J'ai une petite anecdote. J'aime bien sortir du théâtre le soir quand les gens sortent, mais les gens ne me connaissent pas, donc je peux me mêler à la foule et écouter. Un soir, il y a une bande de jeunes d'une trentaine d'années en costume cravate qui travaillent sûrement dans l'économie, dans la finance, la banque, et ils sortent. Pour moi, c'est la meilleure critique. Ils font « Ha !» Ils avaient les larmes aux yeux. Ils étaient hyper émus. Ils font « Ha !» Et voilà, maintenant, on se retrouve dans notre vie. D'un air de dire « Voilà, est-ce qu'on ne peut pas aller voir autre chose ?»
Let's Have a Party, ambiance rock dans VMDN sur RFI avec Stéphane Fraisse, Olivier Soliveres et Ethan Oliel pour le Cercle des Poètes Disparus à l'affiche du Théâtre Antoine, ambiance rock que l'on retrouve dans le spectacle et même avant, on va pas tout raconter, hein, Olivier Soliveres, mais il faut pas arriver trop tard, hein, on va dire, les spectateurs sont directement dans l'ambiance au moment où les portes de la salle s'ouvrent, même les ouvreuses d'ailleurs nous mettent directement aussi dans l'ambiance, et ça c'est très important parce qu'en fait, du début à la fin de la pièce, les spectateurs font partie de la mise en scène. Ça, c'est un peu votre souhait de départ, j'imagine.
Exactement.
C'est la marque Soliveres, ça.
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose.
Si, c'est la marque Soliveres. Il va s'en défendre, mais c'est sa marque.
C'est gentil, mais oui, c'est. Moi, je viens d'abord des spectacles jeunes publics. Voilà, j'en ai beaucoup à Paris qui se jouent. Et c'est des choses que j'ai toujours fait. Alors, c'est mon âme d'enfant. Et là, pour ce spectacle-là, je me dis, bah, pourquoi tu ne gardes pas ton âme d'enfant ? Fais la même chose. On est tous des grands enfants, je pense. Et la preuve, quand on voit ce qui se passe avant le spectacle, oui, les gens sont encore tous des grands enfants.
Voilà, absolument, et ils se font pas trop prier pour y participer. Non. Mais bon, on va pas tout raconter. Donc il y a effectivement
très
plus
mystérieux
aussi
quand même.
Les grands enfants.
À mon avis, ça c'est un très
ouais,
bon truc pour
ouais,
les amener
pas
en
mal,
salle.
Là, c'est pas mal. Là.
Bravo.
Bon,
vous avez
alors
été très
en plus,
fort,
en plus, en plus, les comédiens aussi, ce sont des grands enfants. On va parler de John Keating dans un instant, Stephen Fraisse. Mais parlons des étudiants, parce que les étudiants, ils jouent. Évidemment avec le texte, ils jouent avec les personnages, et puis ils jouent avec les pupitres. Alors les pupitres, c'est très important. Ethan Oliel, pour vous, un pupitre, c'est quoi dans une pièce comme celle-ci ? C'est un élément de décor, c'est un accessoire ou c'est un partenaire ?
Mais c'est tout ça à la fois, je crois. Et ça, c'était un souhait vraiment d'Olivier pour la mise en scène. C'est que les mouvements, parce que vous l'aurez vu, il y a beaucoup de mouvements avec ces pupitres notamment.
Assez sportif, oui.
C'est assez, oui, je ne vous le fais pas dire.
C'est pour ça que j'ai pris des jeunes.
Oui, ça vaut mieux, remarquez.
Exactement. On ne pourra pas jouer ce spectacle éternellement, malheureusement.
Tu veux dire que je ne pourrais pas faire un élève, c'est ça ?
Je ne me permettrai pas, Stéphane. Ils sont toujours en mouvement et je crois que ça traduit aussi beaucoup du mouvement intérieur qui anime les élèves en eux-mêmes. On pourrait aussi le voir comme ça, il y a une espèce, parce que c'est vraiment une histoire qui est là-dessus, sur le mouvement.
Oui, bon, donc ils sont sur roulette, hein, ce qui permet évidemment de les bouger, de les faire entrer et sortir sur scène, de les faire évoluer. C'est important aussi pour le rythme de la pièce. Le rythme, c'est aussi une question qui vous obsède, Olivier Soliveres.
Oui, c'est vrai.
Vous êtes un peu le Michalik des spectacles pour enfants.
Allez, allons-y.
C'est un rapprochement qui vous, vous fait plaisir.
Alexis est un ami, il n'y a pas de souci. J'aime le mouvement, j'aime que les gens ne s'ennuient pas dans la salle. Mais le mouvement amène des choses aussi, amène une certaine fluidité, etc. Et moi, là, pour le cercle, c'était mon premier objectif, c'était... Il y a la salle de classe qui est importante, qu'on voit souvent. Il y a beaucoup de scènes qui se passent dans la salle de classe. Et je ne voulais absolument pas que la salle de classe soit toujours dans le même axe.
Ça, c'est très intéressant, effectivement. Parce que parfois, on voit effectivement les comédiens de dos. Parfois, on les voit profil gauche ou profil droit. L'idée, c'est de pas lasser, évidemment, le spectateur. Jouer de dos, Ethan Oliel, ou jouer de profil, ou jouer de face, ça change beaucoup de choses ?
Bah oui, oui et non. C'est-à-dire que il y a toujours la même nécessité d'être au présent et d'être très très à l'écoute, parce que même si on est de dos, si on n'est pas là, on le voit tout de suite. On remarque un dos qui n'est pas là, on le voit.
Voilà. Mais travailler la présence de son dos sur scène.
Exactement.
Et puis ils écoutent. Vous les voyez de dos, mais ils écoutent Stéphane
qui
est à ce moment-là,
qui est sur le petit podium. Voilà, hein,
et Stéphane a besoin de leur écoute aussi, donc ils sont tout le temps en jeu.
Alors,
et puis c'était aussi le fait, comme au cinéma, j'ai pas de caméra là.
Oui. Donc il faut changer la focale.
Exactement.
De façon à ce que le spectateur.
On a beaucoup parlé aussi avec Olivier de ça, parce que on a cherché d'ailleurs, on avait imaginé plein de manières de faire tourner ça, et puis il a eu finalement la meilleure idée, qui était de faire, en fait, d'inclure l'acteur dans la mise en scène. Ce qui fait qu'on n'est pas loin du cinéma d'une certaine manière, puisque les choses bougent, on fait le montage nous-mêmes. Il y a une chose qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent. Au cinéma, une fois qu'on a tourné une scène, cette scène arrive dans une salle de montage, et pour avoir fait un film, je sais comment ça se passe, vous avez tourné 2 minutes, il va en rester 30 secondes, et ces 30 secondes, elles peuvent être de 1000 formes différentes. Par exemple, dans le film avec Robin Williams, il y a la scène mythique où il monte sur son bureau. Il est sur les 2 minutes de scène, 2 minutes 30, on le voit peut-être 15 ou 20 secondes. Mais le reste du temps, on voit les jeunes, on voit une poubelle qui circule, on voit... Là, quand moi j'ai la parole, eh bien, je suis 2 minutes 30 avec la parole. Donc, comment faire pour à la fois être présent et faire entendre ce que j'ai à dire, et en même temps, ne pas monopoliser l'attention et renvoyer dans le silence qu'eux ont l'intention sur eux.
Oui, parce qu'en plus, le spectateur, lui, ne regarde pas forcément celui qui parle. Hein, donc ça aussi,
non,
c'est
alors, il regarde souvent celui qui parle, mais si on joue ensemble, pour répondre à ce que disait justement Ethan, si eux me regardent et que l'intensité de leur dos raconte leur écoute, alors on est sur eux aussi. Mmh. Et même de dos, on les regarde. Et quand ils font une bouche de la tête pour se regarder de profil, alors ils existent.
Mmh. Alors, au fond de la scène, il y a le tableau. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne l'avez pas vu petit, votre tableau, Olivier Soliver. Pourquoi un tableau aussi monumental ?
Ben pourquoi pas ? Non, mais parce que moi, pour être honnête, je me suis toujours, j'avais vraiment depuis 11 ans certaines scènes que je voyais très bien, la scène de la mort, les choses qui devaient bouger. Et après, le décor en lui-même, j'ai toujours hésité en est-ce que je le simplifie ou est-ce que je suis très réaliste ? Est-ce que je fais vraiment une vraie salle de classe avec les livres, avec la map monde, le drapeau américain ? Est-ce que je fais vraiment quelque chose de très... Et puis, à un moment donné, je me suis dit, j'ai peur que ça me restreigne dans ma mise en scène, et ce grand tableau est arrivé, ouais, en me disant on va donner les codes, parce que on s'est toujours dit on fait pas du cinéma, moi je ne fais pas du cinéma, je fais du théâtre. Donc voilà, c'était aussi le moyen de dire aux gens tout de suite, ok, vous êtes dans le sac des poids disparus, oui, vous êtes dans une salle de classe, mais vous êtes pas, on vous fait pas le film.
Alors, est-ce que vous avez eu des professeurs, Ethan Liel, des professeurs de théâtre qui ont été aussi fondateurs pour vous que M. Keating ne l'a été pour Neil, pour votre personnage ?
Tout à fait, j'ai eu cette chance-là. J'en ai eu une notamment que j'embrasse et qui vient nous voir jeudi. J'ai hâte qu'elle vienne, c'est Petronille.
Je la connais.
Petronille, oui, bien sûr. Et qui m'a vraiment renversé dans son approche et du métier et de ce que je pouvais... y faire, en tout cas le pensait-elle.
Avec l'approche ludique, inventive, surprenante aussi.
Ouais.
On dit toujours d'ailleurs que dans les écoles de théâtre, les professeurs aiment bien surprendre, voire déstabiliser les étudiants, c'est vrai ?
Oui, bien sûr. Oui, c'est possible. Je sais pas
non,
si
c'est pas toujours. Il y a des professeurs qui lassent.
Il y a
des professeurs qui lassent.
C'est que partout, il y a des bons et des moins bons. Mais...
Moi, j'ai eu aussi deux Keating au théâtre. Et si je ne les avais pas eus, je ne suis pas sûr de faire ce métier aujourd'hui.
Ouais. Et à l'inverse, est-ce que
et
l'école...
Je les cite parce qu'on ne sait jamais. Ouais. Il y en a un qui s'appelle toujours d'ailleurs Yves Lemoigne, qui était un personnage très particulier parce que bourré de tics nerveux et qui pourtant, quand ils jouaient, les perdaient. Et puis, il y en a un autre qui était un formidable aussi pédagogue, qui s'appelle Yves Pignot, qui était un comédien de la Comédie française, et qui m'a filé le virus. Sans eux, et j'imagine sans Petroni, et sans les gens qui nous ont donné envie de jouer, de vivre, de comprendre qui nous étions, on ferait autre chose.
À l'inverse, est-ce que l'école, Stéphane Fraisse, l'école, donc vraiment la petite école, le primaire, le collège, le lycée, a joué un rôle important dans votre amour des mots, dans votre amour des textes, dans la vocation d'acteur qui est devenue la vôtre.
Honnêtement, ce goût pour la littérature et la philosophie, ce goût pour me questionner et grandir, je l'ai développé en grandissant, en avançant dans le temps, en avançant dans des rencontres avec des poètes, des intellectuels, des écrivains ou des écrivaines, des gens qui ou des physiciens, enfin des gens qui utilisent le mot ou leur langue pour m'ouvrir à autre chose. Quand j'étais jeune, non, je dois dire que...
Pas du tout.
Non, je peux pas dire que j'étais comme ça. J'étais un peu sous l'effet de l'autorité. Et puis, attention, hein, je suis plus vieux que lui. Hein. Moi, on parle d'autres années où le rapport entre l'enseignant et l'élève...
Oui, ça n'a plus rien à voir.
Et il était rigide et c'était... pas loin quand même de ce qu'il a vécu, de ce qu'il vit dans le film.
Ouais. Hein. Mais alors, je vous posais la question aussi, ça m'intéresse d'avoir aussi votre avis à vous, Ethan Liel, puisque le président Macron a annoncé au début de l'année qu'il fallait mettre l'accent sur le théâtre au collège, en particulier en classe de 5e, qu'il fallait développer l'enseignement de l'art dramatique. Vous gardez quoi comme souvenir justement des pièces de théâtre que vous étudiez à l'époque en tant qu'élève au collège, parce que pour certains c'est une découverte, pour d'autres on se dit oh là là, qu'est-ce que c'est barbant le théâtre.
Ah oui, c'est une bonne question, je vous avoue que pas un bon souvenir bizarrement ni en primaire ni au collège, ni encore moins plus tard en prépa littéraire, parce que, et d'ailleurs je C'est comme vous savez, l'histoire, la matière de l'histoire. Quelquefois, on se dit, mais comment ils ont fait pour... Enfin, certains professeurs, pour rendre cette matière ennuyante, comment c'est possible? Parce que c'est quand même extraordinaire. Et le théâtre au collège ou au lycée, ça peut être un terrain de jeu absolument formidable et absolument génial, notamment pour des gens qui, à la base, comme moi, sont un peu timides, un peu réservés. C'est quand même un exutoire absolument merveilleux, oui, oui, oui.
Extrait de la bande originale du film Le Sac des Poètes Disparus, film de Peter Weir de 1989. Et vous mettez donc en scène au Théâtre Antoine à Paris. L'adaptation au théâtre, c'est jusqu'au 26 mars. Olivier Soliveret, c'est avec 26 mai, oui, absolument. Oui, c'est rassurant quand même, parce que 26 mars, c'est quasiment demain. donc allez, avec Ethan Elial et Stéphane Fraisse. Alors ce thème, donc avec la cornemuse, c'est une musique française, hein, signée Maurice Jarre. Hein,
exactement.
Peut-être le rappeler. On a quelques mesures aussi dans le spectacle, et je pense que ça aurait beaucoup déçu les spectateurs si on n'entendait pas un petit peu de cornemuse. Peter Weir, il est venu vous voir, Ethan Elial, ouais. Faut nous raconter.
Samedi soir, ah oui,
ouais. faut l'adrénaline monte dans ce genre de cas, non?
Mais même pas, je vais vous dire, je pensais être tétanisé, je pense sans doute que je me suis protégé, parce que si j'avais conscientisé l'événement, je pense que j'aurais même pas mis un pied sur le plateau.
Ouais.
mais en vérité, on était tous animés par déjà, il faut réussir à se dire que peu importe qui y a dans la salle, tous les spectateurs ont droit à la même histoire, à la même intensité, et ça, il faut réussir à se le dire. Et puis là, l'occasion faisait que même si Peter Weir était là, on avait beaucoup plus envie l'envie de lui faire plaisir était bien plus forte que le stress qu'aurait pu occasionner sa venue, vraiment.
Alors on va l'écouter, Peter Weir. Il était à Paris à l'occasion de la 11e édition du Festival de la Cinémathèque. Il est venu présenter au public plusieurs de ses films, dont évidemment Le Cercle des Poètes Disparus. Et il en a profité pour raconter avec force détail comment il avait travaillé avec ces jeunes comédiens. Écoutons-le.
Ils étaient très dans la compétition. Ils faisaient des bons partout, ce qui était exactement ce que je ne voulais pas dans le film. J'ai dû un peu les ramener à l'ambiance de la fin des années 50 et il se trouve que j'avais exactement leur âge à cette époque-là. J'étais étudiant à Sydney dans une école qui ressemblait beaucoup à celle du film, le Scots College. J'ai essayé de les détendre parce qu'ils étaient pleinement conscients de tourner avec un grand acteur comme Robin Williams. Ils avaient l'impression de tourner un gros film hollywoodien et il y avait comme de l'électricité dans l'air. Et donc je leur ai dit que ce qu'on allait faire, c'est qu'on n'allait pas répéter, mais qu'on allait les mettre tous dans la classe, en uniforme, avec les coupes de cheveux de l'époque, et que c'est moi qui allais faire le professeur. que j'allais être un professeur, Mr. Q Ward, professeur de littérature anglaise, et qu'on allait monter une pièce de théâtre de Noël et qu'ils allaient me donner leurs idées sur comment monter la pièce. Alors d'un seul coup, je me suis transformé en professeur extrêmement autoritaire avec énormément de morgue et j'ai fait mine de prendre en compte leurs idées pour finalement leur imposer les miennes. Et donc, ils ont compris que j'étais en train de déconstruire la figure du réalisateur hollywoodien. Et moi, je jouais la comédie. Donc on est parti sur l'idée que dans l'esprit du film, il fallait s'attendre à l'inattendu. Et pendant qu'on installait les caméras, les éclairages pour la première scène, moi, je passais de la musique assez fort pour donner une ambiance. Pour la première scène, au lieu de dire « action » et « couper », j'ai cogné ma petite cuillère contre ma tasse de café. Et pour dire qu'il fallait arrêter la scène, j'ai laissé tomber ma petite cuillère. Et alors là, j'ai vu toute l'équipe de tournage américaine se dire « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il nous fait cet Australien ?» Et au moment où il y avait un jeune comédien qui devait commencer la scène d'eau à la caméra, je lui ai dit bah « Pour savoir quand tu commences à parler, je vais te jeter une petite boule de papier sur la nuque. Et là, tu sauras que tu dois commencer. » Et donc, en les faisant arrêter de programmer leur jeu, je mettais à l'épreuve leurs attentes. J'installais un silence jusqu'à ce que quelqu'un pouffe. Tout ça pour leur donner un espace qui soit à eux, un espace de liberté.
Alors vous, Olivier Soliveres, vous ne faites pas de cinéma, vous faites du théâtre. Est-ce que vous avez aussi des petits trucs comme ça pour mettre en condition vos comédiens lors des répétitions? Ah, et Tanoliel a visiblement peut-être quelques idées, si vous les avez oubliées.
Je ne sais pas si j'ai des trucs. moi, déjà, j'aime mes acteurs. Voilà, déjà, ça part de là. J'aime les comédiens. J'aime qu'ils soient heureux, je veux qu'ils soient heureux d'être sur scène. On parle beaucoup, je les laisse faire. J'aime que ça vienne d'abord d'eux. Souvent, je leur dis encore, allez go, on y retourne. Et je veux pas trop leur montrer, je veux que ça vienne d'abord d'eux. Après, on en parle, voilà.
Alors, état de lieu.
C'est ça qui est assez, assez génial, et je dis pas ça parce qu'il est en face de moi. C'est vraiment pour ça. non, c'est qu'au-delà d'être un metteur en scène qui sait vraiment raconter des histoires, c'est quelqu'un qui sait absolument créer une équipe. C'est assez phénoménal. Moi, j'ai vraiment l'impression de travailler avec Didier Deschamps. non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a une intelligence émotionnelle pour créer des groupes. Moi, je l'ai vu dans un autre spectacle, notamment sur les aventures de Pinocchio. Et à chaque fois, il sent les énergies qui vont fonctionner ensemble. Et le choix des comédiens, c'est des acteurs brillants. Et on peut les citer, Audran, Maxime, Maxence, Élie et Pierre. Et Joseph et Arthur qui nous accompagnent aussi. Mais, et Olivier avait en plus le don pour voir les bonnes énergies, je
crois. Alors justement, le casting, c'est important.
Et les plus vieux, parce qu'évidemment, ils parlent des jeunes.
Oui, oui, attendez, on va venir à vous dans un instant.
Ah non, je parle pas de moi.
Attendez,
mais moi, mon ego s'est arrêté. Voilà. Je parlais des deux autres, Olivier Boina et Yvan Garouel.
Le directeur est là.
Non, mais enfin, voyons. Alors, Olivier, je quitte ce studio.
Le casting. Justement, bon, on a cité quelques noms. On se dit quand même que la ressemblance physique a dû énormément jouer dans votre façon de choisir les comédiens par rapport au film. Vrai ou faux?
Non, faux. Pas trop.
Mais un peu quand même.
Regardez le personnage de Mix, qui là est joué par Pierre Delage. Ça n'a rien à voir avec Mix.
Non, mais il a des lunettes aussi, il a une coiffure qui ressemble un petit peu.
J'ai donné certains.
Voilà, Charlie Dalton, Audran Quatin, c'est un petit peu le même type de visage.
Les visages, je ne sais pas trop, mais en tout cas, l'esprit, dans l'attitude. C'est sûr que j'ai cherché. Audran Quatin,
caractère.
Oui, Overstreet, c'est le plus grand dans le film, c'est le plus grand sur scène aussi, sauf à ma part. C'est des hasards, tout ça, c'était pas volontaire.
Je crois que c'était des hasards. Après, moi j'adore par exemple les spectacles en Angleterre, je le dis tout le temps, vous avez de tout, vous avez des vieux, des jeunes, des minces, des gros, et ça c'était important pour moi, je ne voulais pas qu'il y ait qu'un seul physique, ça c'était important. Et après, le truc aussi qu'on a fait, parce que vous parliez de trucs, de comment créer un groupe, etc., et ça pour moi c'était la base, il faut que les gens, que tout le monde se sentende bien sur scène, qu'il y ait un vrai groupe, parce que les gens, je pense, le ressentent sur scène. La base déjà qu'on a fait, c'est que je voulais pas, avant de répéter, on est partis à la campagne tous ensemble. Je les ai emmenés tous ensemble. Stéphane voulait absolument venir avec nous.
Une sorte de stage d'intégration, quoi, comme c'est le cas dans les entreprises. Quoi.
Oui, c'est ça. On est partis en vacances à la campagne pendant un grand week-end.
C'était formidable.
Chez mes parents. Vous pouvez,
et c'est important, ça, pour un comédien, même avec l'expérience que vous avez, Stéphane Fraisse, comme ça.
Je ne l'avais jamais fait, moi.
D'apprendre à découvrir vos partenaires comme
moi,
ça.
J'ai commencé ce métier en 1938 et je dois dire que je ne l'avais jamais fait. Donc, ça veut dire combien. Non, mais ça nous a fait un bien fou parce que. Parce que de la même manière qu'on entend Peter Weir essayer d'enlever l'intimidation que ces jeunes pouvaient avoir pour à l'idée de rencontrer Robin Williams, mais même d'être dans un film aussi important, de la même manière qu'il y a un effet probablement aussi un peu Pygmalion, j'ai quand même une carrière plus longue que la leur, et je suis Keating quand ils sont élèves.
En plus, et ça en fait même beaucoup.
Et ce qui était très important, c'était de se remettre pendant quelques jours au même niveau, de nos souvenirs, de nos émotions, de notre curiosité pour l'autre, de notre virtuosité, de notre capacité à pouvoir échanger et ne pas être d'accord. Ce qui est fantastique, et je leur rends hommage, et c'est vrai pour les jeunes et les moins jeunes, tout le monde peut tout se dire, parce que c'est dit avec bienveillance, et parce qu'on sait que le spectacle vivant, ça bouge, parce que c'est vivant, et qu'il y a quand même un axe qu'on s'est donné avec Olivier, et que cet axe, il faut le tenir. Ça laisse beaucoup de liberté à l'intérieur, mais ça nous oblige aussi à tenir avec rigueur le spectacle, et ça, c'est fantastique, il n'y a pas d'égo mal placé.
Alors on va écouter à nouveau Peter Weir, toujours à la Cinémathèque française, parler cette fois-ci de la façon dont il a dirigé, non pas Stephen Fry, mais Robin Williams.
Oui, j'avais refusé à l'époque.
Pour Robin Williams, qui avait beaucoup d'humour et que les gens connaissent pour ça, je ne voulais pas enlever ça dans le film. Je lui ai simplement dit d'aller doucement sur les intentions de jeu et de simplement lever un sourcil avec un petit sourire pour signifier qu'on n'était pas dans du drame lourd, mais d'y aller quand même dans le jeu en dessous. Et j'ai dû un petit peu le calmer. Je savais qu'il avait un visage très mobile, qu'il faisait beaucoup de choses avec son visage et son corps, avec sa voix. Et là, je lui ai demandé de rester plus sobre, de rester en place.
Alors la question de la sobriété, elle est essentielle sur une scène de théâtre, Stéphane Fraisse, peut-être plus encore que devant une caméra de cinéma, parce que la caméra, elle focalise vraiment sur le visage, donc il faut évidemment, voilà, au théâtre, comment on fait justement pour trouver le bon dosage entre en faire assez et ne pas en faire trop?
Mais justement, c'est pas le mot sobriété qui me vient. C'est le mot authenticité. Encore une fois, si je dois jouer comme une scène, la même scène au cinéma que je joue le soir, il est évident que personne m'entendra au cinquième rang, que mon corps ne vivra pas l'émotion parce que je serai cadré comme ça, c'est-à-dire je mets mes mains jusqu'à la poitrine. Oui. Donc on est au théâtre et c'est ça le théâtre. C'est deux choses le théâtre. C'est la répétition, on joue tous les jours et on joue tous les jours avec tout notre corps et trois choses et on joue tous les jours avec tout notre corps, avec quelqu'un en face de nous. Petite parenthèse qui d'ailleurs n'a jamais été ou très peu relevée depuis qu'on a commencé à jouer, il n'y a que des hommes sur scène.
Oui, mais absolument, parce qu'il y a aussi le hors-champ. Et le hors-champ, c'est notamment donc la fille que M. Overstreet veut à tout prix séduire. Christine, c'était une volonté justement de la mettre hors-champ. Effectivement, il n'y a que des hommes sur scène. Certains pourraient vous dire, Olivier Stoliveres, en 2024 quand même, franchement.
Oui, on pourrait me dire ça, mais le problème, c'est que le rôle existait de Christine et le rôle était minuscule. C'était une toute petite scène qui arrivait à la fin. Et on s'est dit aussi...
On s'expose plus, là.
Est-ce que ça va pas être pire? Est-ce qu'on va pas me dire... on va pas nous dire, vous êtes pas sympa, là, une toute petite scène, etc., dedans. Donc voilà, on a pris parti pris, puis je trouve ça même poétique
Et c'est aussi une façon, l'imaginer. D'ailleurs, encore une fois, de casser le quatrième mur, parce
exact.
Que...
Oui, et puis, c'est pas parce qu'il y a que des hommes sur scène que le spectacle manque de féminité.
Tout à fait.
Je pense qu'il y a quelque chose de très féminin, d'abord chez nous tous, et en général chez les acteurs, et dans la mise en scène aussi, c'est-à-dire quelque chose de gracieux, quelque chose de subtil, de délicat. Et ce ne sont pas des mots qui sont péjoratifs pour nous, tous. Il y a à la fois un rapport entre des hommes, mais avec tout ce que je viens de dire. Et je trouve qu'on le sent, nous aussi, de l'intérieur.
Bien sûr. Notamment la fragilité chez ces élèves, c'est un retour qu'on m'a fait, moi, de gens qui avaient un petit peu peur en se disant « il n'y a que des hommes », etc., qui avait cet a priori-là, et qui en fait, en voyant les élèves n'ont pas vu juste des garçons sur un plateau faisant l'étalage de toute leur virilité, ou mais ont vu vraiment des fragilités et des émotions qui leur parlaient tout à fait. Ils sont allés au-delà de ça.
Voilà, émotion effectivement en tout genre dans ce spectacle vraiment, vraiment magnifique qui, je crois, émeut vraiment tout le monde. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés
par
le studio de RFI. Stéphane Fraisse, Olivier Soliveres, Ethan Oliel. Le Cercle des Poètes Disparus à l'affiche donc du Théâtre Antoine à Paris jusqu'au 26 mai. Je dis bien 26 mai, il y aura une tournée après, Olivier Soliveres. Vous n'allez pas en rester là.
C'est prévu.
C'est prévu. Bon, on se quitte en musique, les Amazones d'Afrique sur RFI. Les Amazones d'Afrique, Mamani Keita et Fafa Rufino dans la playlist RFI de ce mois de mars. Dans une poignée de secondes, le journal en français facile sur RFI. On se retrouve demain, bien sûr, pour parler haute couture avec le couturier camerounais Iman Aïssi. Et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.